de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif, composé du MOC Nancy, de Survie Lorraine, de l'AFPS Lorraine Sud, la SPS Lorraine, les éditions Kairos, la LDH de Nancy, le SAF et Amnesty International Groupe de Nancy, notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur les conflits, les guerres, leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui touche la moitié de l'humanité parce que nous allons parler des luttes pour les droits des femmes pour le 8 mars. Nous avons autour des micros pour cette émission autour du 8 mars. Anne, bonjour Anne.
Bonjour.
Et donc tu représentes la FSU 54.
Oui,
C'est un syndicat enseignant, enfin de l'enseignement, recherche.
Alors la FSU, c'est une fédération qui regroupe divers syndicats, dont des syndicats enseignants.
Très bien. Nous avons également Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Et toi, tu es Marie-Christine?
Je représente le Parti communiste français, le département 54.
Le PCF 54. Je continue le tour dont je vais à l'opposé. Nous avons Yann. Yann, bonjour.
Oui, bonjour.
Et Yann, toi, tu appartiens à toi-même, mais tu es militant.
C'est ce que j'allais dire. Je suis adhérent et militant à la CGT.
Également à la CGT, nous avons autour des micros Laura.
Bonjour.
Et donc toi tu es...
Moi je fais partie du syndicat Ville de Nancy CCS.
D'accord. CGT, d'accord, très bien. Nous avons également Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Sylvie, toi tu es...
À la France Insoumise 54.
D'accord, et nous avons encore une autre organisation politique des écologistes avec Géraldine. Bonjour Géraldine.
Oui, bonjour Stéphane. Donc moi je suis Europe Écologie Les Verts, les écologistes. Je suis conseillère fédérale et également conseillère régionale Grand Est depuis 2021.
Très bien. Et donc cette émission sera animée par les deux membres du collectif qui fait cette émission de radio, donc moi-même Stéphane pour le mouvement de l'objection de conscience et également Élise.
Oui, bonjour à tous. Élise du mouvement pour une alternative non violente, le MAN Nancy.
Alors comme d'habitude, on commence par quelques brèves. Je vais commencer en parlant... D'une initiative de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, dont l'activité est très chargée en ce moment, vu ce qui se passe à Gaza. On fait des émissions régulièrement sur RCN. On peut écouter les anciennes émissions sur le podcast. Il faut aller sur le site rcn-radio.org et vous allez dans la partie magazine de société, je crois, et on trouve Parole de paix et vous pouvez retrouver les anciens podcasts. Donc une petite brève de l'association France-Palestine Solidarité Lorraine Sud qui propose samedi 9 mars de 2024 au Château du Charmois à Vendeuvre une journée de conférence, de formation. Ça s'appelle « Guerre au pluriel au Proche-Orient ». Quelles conditions pour une paix entre Israéliens et Palestiniens ? Le programme commence dès le matin avec un accueil à 9h30, un exposé de Thomas Vescovi et des échanges avec la salle. Thomas Vescovi est un chercheur spécialiste des questions de Palestine et Israël. De 12h à 13h, il y a le repas tiré du sac. Et l'après-midi, il y a des jeux de rôle, et notamment pour apprendre à contre-argumenter quand les militants se font agresser sur certaines questions. Par exemple, sur la question Israël-Palestine, dès qu'on conteste le gouvernement israélien, on se fait traiter régulièrement d'antisémite, voilà, donc c'est l'insulte suprême, et après ça coupe toute forme de discussion et de proposition. Et à 15h30, 16h30, il y a une solidarité, donc réfléchir sur les formes de solidarité avec le peuple palestinien. Donc c'est samedi 9 mars, au Château du Charmois à Vendeuvre. L'entrée est libre et gratuite, bien sûr, et ça s'appelle conférence et formation « Guerre au Proche-Orient, quelles conditions pour une paix entre Israéliens et Palestiniens ?» Voilà, voilà, je passe Tout de suite, c'est moi qui fais la deuxième brève, encore. Et là, je la fais au nom de nos amis d'Amnesty International qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Alors, voici le texte qu'ils souhaitent diffuser. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, environ une cinquantaine de décrets et lois ont été promulgués pour restreindre les droits des femmes en Afghanistan. Résultat, les femmes sont invisibilisées. Elles ont été presque totalement effacées de la vie publique et de l'espace public. Interdiction d'accès aux parcs, les parcs et jardins, de suivre des études secondaires, interdiction de s'inscrire à l'université, de trouver un travail dans de nombreux domaines, de marcher dans la rue sans la présence d'un tuteur masculin, le maram, obligation de porter des tenues les couvrant de la tête aux pieds, arrestations, tortures, mauvais traitements et disparitions forcées pour toutes celles qui osent encore se révolter. Depuis janvier 2024, les arrestations de jeunes femmes et de jeunes filles par les talibans se sont intensifiées. La police religieuse des talibans a arrêté, battu et transféré dans des lieux inconnus des dizaines de jeunes filles et de femmes dans la ville de Kaboul, sous prétexte qu'elles portaient mal, entre guillemets, leur hijab. Certaines de ces femmes ont décidé de fuir ces violences et ont réussi à quitter le pays. Elles se sont rendues, lorsqu'elles ont pu y arriver, dans les pays voisins comme l'Iran ou le Pakistan, où elles sont la proie de nombreux harcèlements et de mauvais traitements. Terre d'exil, traditionnelle pendant la guerre, ces deux pays acceptent en effet de moins en moins la présence de réfugiés afghans sur leur territoire. Amnesty International mène une campagne pour soutenir ces femmes, avec entre autres une pétition, 92 725 signatures à ce jour, demandant de faciliter l'arrivée en France des femmes et filles afghanes en exil à la recherche d'une protection. En délivrant de plus de visas au titre de l'asile, le plus rapidement possible, notamment aux femmes qui sont bloquées en Iran et au Pakistan, où leur sécurité n'est pas garantie. En accélérant la réunification familiale des conjointes et enfants d'Afghans réfugiés en France, en délivrant le plus vite possible les visas auxquels elles ont droit, en mettant en place un accueil en France dans la dignité et le respect de leurs droits. On retrouve cette pétition sur le site amnestyfrance.fr. Et voilà, et on peut se renseigner auprès du groupe Amnesty France, groupe de Nancy. Voici. Et donc, troisième brève qui nous est proposée par le MAN Nancy. Vas-y, Élise.
Oui, alors moi, je voulais parler de l'action au Parlement de Strasbourg le 12 mars contre la relance du nucléaire. Donc, pourquoi le 12 mars ? Ben, parce que c'est... le lendemain de l'accident de Fukushima, qui était donc le 11 mars 2011. Et c'est aussi parce que c'est une des dernières sessions du Parlement européen avant les élections. Donc, on voulait qu'il y ait un maximum de députés. Il y en aura à peu près 80% ce jour-là. Donc, on a choisi le 12 mars. C'est une action qui a été initiée par l'association Réaction en chaîne humaine. Donc, il s'agit de faire une chaîne humaine pour interpeller les députés sur la relance du nucléaire. Donc, en France, c'est aussi soutenu par toute la coordination anti-nucléaire qui est composée de toutes les associations en France qui luttent dans ce domaine-là. Et c'est aussi une association internationale avec des groupes allemands, autrichiens, hongrois, danois, néerlandais. Il y a même un groupe russe et il y a les Hongrois, je crois que je l'ai déjà dit, les Finlandais, les Espagnols, les Catalans. Donc, pourquoi s'opposer à la relance du nucléaire ? Eh bien, parce que c'est une énergie extrêmement polluante. Alors, elle a certes été déclarée bas carbone par la Commission européenne en 2022. Donc, elle émet effectivement beaucoup moins de carbone que les autres combustibles, notamment fossiles. Mais Greenpeace a montré que le nucléaire n'empêchait que 2,5% des émissions de CO2 dans le monde et que si la France voulait vraiment diminuer de 10% ses émissions de CO2 dans les 20 prochaines années, il faudrait à peu près construire un réacteur nucléaire par semaine pendant 20 ans, ce qui est strictement impossible puisque la durée de construction est à peu près de 10 à 19 ans. Donc c'est bien ce qu'on a vu avec l'EPR de Flamanville qui a commencé à être construit en 2007, le chantier devait durer 5 ans, mais il n'est toujours pas mis en service. Il le sera peut-être en 2024, mais c'est pas sûr. Et les coûts sont faramineux puisque le chantier devait coûter 3,3 milliards d'euros et finalement ça va coûter au moins 6 fois plus. Donc c'est déjà des bonnes raisons de se passer de l'énergie nucléaire et en tout cas de pas la relancer. Mais il y a aussi tout le problème des déchets qui sont très maltraités, qui sont faiblement réutilisés dans certaines centrales. Mais il y a une quantité énorme de déchets qui est produit, à peu près 1200 tonnes de combustible usé par an, stocké dans 63 piscines nucléaires en France. À la REC, c'est 10 000 tonnes de combustible usé qui sont refroidis dans les piscines. Et il y en a de plus en plus de produits chaque année. Donc ça commence à déborder et c'est pour ça que à La Hague, il est question de construire un nouveau site de stockage qui verra le jour à peu près en 2034, donc très tard, puisqu'on arrive déjà maintenant à saturation. D'où l'idée d'accélérer le projet CIGEO de stockage souterrain à Bure. Et là, j'ai appris hier soir à la réunion de la coordination antinucléaire du Nord-Est que les premiers dossiers de rachat de terrain avaient été envoyés. Donc, achat de terrain ou expropriation. Donc, les militants étaient hier soir très tristes, évidemment, puisque c'est un engagement antinucléaire de dizaines d'années qu'ils ont vécu. Alors, je voudrais aussi aborder très brièvement le problème de sécurité des centrales, puisque c'est évident que il y a des failles de sécurité puisque, par exemple, le groupe Greenpeace a pu aller à l'intérieur de la centrale de Katnum il y a quelques années. C'est aussi des installations, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, qui sont vulnérables aux attentats ou en cas de guerre, vulnérables aussi au changement climatique puisque les centrales ont besoin de beaucoup d'eau pour refroidir les réacteurs. D'ailleurs, il faut rappeler que en 1999, il y a eu la tempête en France et la centrale du Blayais a eu un gros problème puisque la digue qui la séparait de la mer s'est rompue, la centrale a été inondée et là on risquait clairement un accident du type Fukushima, mais heureusement les dispositifs de secours ont pris le relais. En tout cas, les accidents pour le nucléaire, ça dégage énormément de radioactivité, ça nécessite l'évacuation de la population, donc ça fait des zones complètement inhabitables et pour très très longtemps, puisque par exemple la durée de vie du plutonium-239 c'est 24 000 ans, donc ça veut dire qu'il aura perdu la moitié de sa radioactivité en 24 000 ans, donc vous voyez que les territoires vont rester inhabitables pendant très longtemps et ça fait des populations sacrifiées, puisque les gens qui habitaient dans ces zones-là vont être irradiés, vont continuer à être irradiés par tout ce qui s'est déversé dans l'eau, sur les sols, dans l'air, etc. Donc, ça va causer énormément de problèmes sanitaires. Et pour reprendre justement l'émission qu'on avait fait il y a 15 jours sur les armes nucléaires, on a repris les chiffres des explosions nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Et ce qu'on voit, c'est que dans les 5 années qui ont suivi l'explosion, il y a eu énormément de morts dues aux maladies radio-induites. Alors Hiroshima, c'était 60 000 morts en 5 ans. À Nagasaki, vu que c'était une bombe au plutonium, c'était 130 000 morts en 5 ans supplémentaires. Donc c'est vraiment des populations sacrifiées parce que la radioactivité induit des mutations génétiques qui vont se transmettre de génération en génération. Donc, pour finir et pas faire trop longtemps, je voulais rappeler l'investissement des femmes dans la lutte anti-nucléaire civile et militaire. Donc, c'était le camp des femmes pour la paix à Greenham Common au Royaume-Uni qui a duré 19 ans, de 1981 à 2000. Elles sont installées devant la base de l'OTAN qui avait des missiles nucléaires pour protester. En 1987, le traitement sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé par Gorbatchev et Reagan ont conduit à ce que les missiles nucléaire quitte cette base en 1991, mais les femmes sont restées encore pour protester contre le programme militaire britannique. Et puis, plus près de chez nous, on peut aussi parler de l'investissement des femmes contre la centrale de Plogoff en Bretagne, contre la centrale de Fessenheim et aussi contre le site CGO à Bure, avec notamment les semeuses, un collectif autogéré qui fait du maraîchage bio et aussi le collectif Bombes Atomiques. Voilà, j'ai fini pour la brève, je vais passer la parole.
Oui, une brève assez longue, effectivement. Mais Élise, merci en tout cas d'avoir fait le lien entre cette action qui a donc la chaîne humaine, qui aura donc lieu devant le Parlement européen le 12 mars 2024, entre 12h et 14h. Il y a un site internet qui s'appelle chaînehumaine.fr et également, je vous laisse un numéro de téléphone, le 07 77 20 27 71. Je répète, 07 77 20 27 71 pour les gens qui veulent se rendre à Strasbourg le 12 mars devant le Parlement européen. Je crois qu'il y a aussi du covoiturage qui est organisé depuis Nancy. Donc, on a déjà pris beaucoup de temps pour ces brèves. On va lancer tout de suite la pause musicale et reprendre sur le sujet de cette émission le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes.
Je suis la méchante qui casse l'ambiance en soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler. L'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher. Je suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcollé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Oh, 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 oh. Avec plaisir je serai une martyre de la cause. Oh, 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 oh. Avec honneur je serai une martyre de la cause. Oh, 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 oh. Avec fierté je serai une martyre de la cause. Je suis l'inquisition qui censure la culture, la matriarche extrémiste ravageant l'écriture. Délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance. Présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Ah, oh, 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 oh. Avec plaisir je serai une martyre de la cause.
RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin.
Une émission consacrée au 8 mars, journée de lutte, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, tous les 8 mars, depuis pas mal d'années maintenant, je crois que c'est depuis les années 77, ça a été, l'ONU a déclaré cette journée du 8 mars, journée de lutte pour le, bon, ils n'ont pas dit lutte, je crois, au niveau de l'ONU, journée pour les droits des femmes, et cette journée était une journée importante, avec à parole de paix, on veut la mettre sous l'angle de la lutte, des droits, c'est pas la fête des mères où on amène un petit parfum à sa maman, aux femmes. C'est pas des roses, c'est pas des fleurs, c'est pas l'esprit pétainiste. C'est l'esprit qu'il y a des discriminations et des différences vraiment importantes, des combats toujours à gagner. Et donc il faut qu'il y ait une journée, au moins une journée, même si le travail doit se faire au quotidien et dans les différentes organisations qui sont représentées aujourd'hui, de défendre, d'acquérir des droits, des nouveaux droits. Je rappelle qu'on a autour des micros Anne pour la FSU, Marie-Christine pour le Parti communiste français 54, on a Élise et moi, Man et Mock, et on a également Europe Écologie Les Verts, les écologistes dans la personne de Géraldine, on a Sylvie de la France Insoumise et 54, et on a également Yann et Laura, Laura et Yann, on va dire Laura et Yann de la CGT, alors Laura pour la CGT, elle a dit CCAS Nancy, ville de Nancy. Ouais. Et puis Yann pour Nancy et les environs.
Pour l'Union locale CGT.
Voilà. Ouais. Et donc, le 8 mars, à Nancy, il y a une manifestation, je crois, à 15h, place Charles III. Donc, il faut y être nombreuses et nombreux. Et est-ce que vous pouvez un peu... Ben, on va peut-être commencer par les organisations de cette journée-là à Nancy. Ce sont la FSU, la CGT solidaire au niveau des syndicats, plus un syndicat étudiant, je crois, l'UNEF. Et une association féministe nancéenne connue, on les a déjà eues dans Parole de paix, qui sont Nous Toutes 54.
Oui.
Alors,
c'est ça, tout à fait.
Anne, tu nous présentes rapidement la journée. Déjà, qu'est-ce qui est prévu?
Donc, le 8 mars, tu as dit une journée de lutte pour les droits des femmes. C'est même une journée pour laquelle on appelle à la grève féministe. Donc, grève que ce soit au travail, mais aussi à la maison, grève des tâches domestiques. Parce que dans ce domaine-là aussi, il y a encore des choses à gagner. Et donc, le 8 mars, il y aura effectivement une manifestation. Donc, avec un rendez-vous à 15h, place Charles III. Et puis un départ en manif pour lequel on espère qu'on sera nombreuses et nombreux, effectivement.
Alors, un départ en manif, j'ai vu, à 15h40. Pourquoi un départ en manif à 15h40 ?
Parce que si on fait au niveau des différences de salaire, si jamais on fait le calcul, ben c'est le moment de la journée à partir duquel les femmes ne sont plus payées, en fait, si on tient compte des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes.
Ouais, donc c'est important de le marquer. Et c'est vrai que j'ai noté que tu as parlé grève féministe, ça veut dire aussi grève au travail. On appelle tous, je crois, hein, parce que les organisations politiques, on soutient tous, en tout cas toutes les organisations qui sont ici, le PCF, les Verts et les Insoumis. On appelle tous à cette journée. Et oui, petite anecdote personnelle, moi qui ai aussi été élevé dans un milieu féministe, je me rappelle que les 8 mars, ma mère effectivement disait je ne fais rien aujourd'hui et se croiser les bras ou aller bouquiner toute la journée. Donc ça veut dire qu'aussi, non mais c'est une anecdote, mais c'est aussi les femmes font beaucoup de choses, font tourner les maisons, encore, il y a encore beaucoup de choses à gagner au niveau du travail, de l'emploi, au niveau de leur corps, de l'intimité, et également au niveau dans la maison, les choses sont pas, même si on peut dire tout le temps le cliché, c'est dire on fait des progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire.
C'est ça.
Et donc chacune des organisations a des points qu'elle met aussi en avant. On commence peut-être par la CGT, parce que quels sont les points forts et saillants. On l'a dit, c'est la cause des femmes, tendre à l'égalité, pas tendre, arriver à l'égalité femmes-hommes. Il y a encore beaucoup de travail et il faut de façon à des moments fortes le dire. Laura.
Tout à fait. Oui, aujourd'hui encore dans le monde professionnel, le chemin pour l'égalité femmes-hommes est encore long, hein, en 2024. Aujourd'hui en France, pour donner quelques chiffres, les hommes sont rémunérés en moyenne 24,4% de plus que les femmes. Et plus d'une femme sur quatre occupe un emploi à temps partiel, contre un homme sur 10.
Donc c'est du partiel, c'est du temps partiel temps subi. Partiel. Oui. C'est bien souvent c'est subi, c'est pas un choix.
Oui, oui, parce que les femmes sont majoritairement dans des métiers qui sont peu valorisés. Je pense que la pandémie du Covid-19 a mis sous le feu des projecteurs les secteurs essentiellement invisibles, voire dévalorisés. En tout particulièrement le secteur du soin, qui regroupe les métiers de la santé, de l'éducation, de l'aide à la personne, du travail social ou encore de la propreté. Ça a été des secteurs présents en première ligne de crise, mais malheureusement dans ces métiers mal payés et souvent pénibles en raison des horaires atypiques et des rythmes de travail particulièrement soutenus, les femmes sont largement majoritaires. Donc voilà, je pense que ces chiffres sont loin d'être anodins. Le secteur du soin a été l'un des premiers mobilisés dès le début de la pandémie et les femmes ont été les premières touchées par l'impact économique de la crise. Et en parallèle, les femmes sont majoritairement dans les contrats les plus précaires. Parmi les 5 millions d'emplois à temps partiel, 76% sont occupés par des femmes. Et 29,3% des femmes occupent ainsi un emploi à temps partiel contre 8,4% pour les hommes. Donc parce que bah oui, c'est des métiers qui sont en effet précaires. On peut aussi parler un sujet aussi important quand même, c'est le sexisme dans le monde du travail, parce que c'est aussi important d'en parler. On a aujourd'hui aussi des femmes qui malheureusement viennent travailler avec la peur au ventre ou la boule au ventre de se dire qu'elles vont subir des attaques sexisme de la part de leurs collègues de travail. Malheureusement, je pense qu'autour de cette table, on en a tous vécu, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Et ça, c'est une lutte qui nous tient particulièrement à cœur à la CGT, c'est de pouvoir dénoncer et former tous les gens, que ce soit femmes ou hommes, contre le sexisme. Voilà.
Et je donne aussi la parole tout de suite à la FSU, qui est aussi un syndicat et majoritairement de femmes, parce que c'est, comme le disait Laura, à l'hôpital, dans les métiers du soin, les métiers et l'éducation, n'y coupe pas. Il y a de plus en plus, je crois que c'est un métier féminisé à combien? 80%?
80% à peu près.
Et donc mal payé. Donc, en tout cas, moins bien payé qu'il devrait l'être par rapport à ce type de
moins travail. Bien payé de manière générale, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la fonction publique. Donc on devrait se dire tout le monde gagne la même chose. Et ben non, là aussi, dans la fonction publique et dans l'éducation, les différences de salaire existent entre les femmes et les hommes. Parce que, tu l'as dit, c'est un métier à majorité féminine, mais dès qu'on monte dans les emplois plus valorisés, on va retrouver principalement des hommes. Dans tout ce qui est mis pour soi-disant favoriser une revalorisation salariale, si on prend l'exemple par exemple du pacte, qui n'est pas une revalorisation salariale, mais qui est ce que le gouvernement a proposé, c'est des missions supplémentaires.
Oui, le gouvernement, moi, peut-être bien expliquer aux auditeurs, aux auditrices, c'est que le gouvernement dit qu'il augmente les salaires, mais en fait, dans la réalité...
C'est ça, mais en fait, c'est prendre des missions supplémentaires pour gagner un peu plus d'argent, et ces missions supplémentaires, elles sont majoritairement prises par les hommes, parce qu'elles se déroulent le mercredi matin ou le soir, et donc sur des moments où ce sont encore majoritairement les femmes qui vont récupérer les enfants, qui doivent gérer les tâches ménagères. Donc c'est un exemple qui montre que même dans la fonction publique où les salaires devraient être les mêmes, les hommes restent majoritairement mieux rémunérés que les femmes.
Oui, et puis également la pénibilité. Moi, j'entendais hier Sophie Binet à France Inter qui disait... qu'on ne comptait pas comme difficile le métier d'ATSEM, qui sont les moins bien payés et qui subissent des cris d'enfants à longueur de journée. Et elle disait que au niveau des décibels, c'était l'équivalent d'autres métiers chez les hommes pour lesquels c'est pris en compte. Après, c'est bien que ça soit pris en compte chez les hommes, bien sûr, mais il faudrait que ça soit pris en compte aussi dans ces métiers-là. Yann.
Oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de la différence de salaire, enfin, pas uniquement de ça, mais la différence de salaire, on dit 24% à peu près, 23% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est dû au fait que les femmes sont sur les emplois précaires, temps partiel subi, plafond de verre, enfin, il y a plein de éléments professionnels qui font que il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes globalement, mais même à travail égal, il y a une différence de salaire. On reste quand même sur une différence de salaire d'à peu près 15%, enfin 14 et quelques pourcents. Et alors les différents gouvernements depuis des années disent qu'ils font des choses voilà pour atténuer cette différence de salaire, sauf que quand on regarde, effectivement, il y a eu une baisse de la différence de 7% depuis 1995 entre les hommes et les femmes à travail égal, mais on voit 95, ça fait 30 ans. Et on reste quand même, donc il faudra combien d'années encore pour faire disparaître cette différence de salaire entre les hommes et les femmes? Encore 60 ans. Est-ce qu'on a encore le temps d'attendre 60 ans pour que les femmes, enfin, aient le même salaire à travail égal que les hommes? Non, on n'a pas le temps d'attendre. Maintenant, il faut que ça soit effectif et que ça ne soit pas incitatif. J'allais être grossier, mais leur site où ils font du shaming vis-à-vis des entreprises qui ne respecteraient pas assez la politique d'égalité salariale, c'est pas suffisant. Il faut une loi, même pas incitative, qui soit contraignante sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ça aurait un effet bénéfique, entre autres, d'augmenter aussi les cotisations sociales, de défendre les retraites, de défendre la sécurité sociale, de défendre le financement de la protection sociale. Donc, ça serait bénéfique pour tout le monde. Et pour les hommes, et pour les femmes. Tout à l'heure, tu disais, je rebondis là-dessus, que c'était un combat qui concerne la moitié de l'humanité. Non, c'est un combat qui concerne l'ensemble de l'humanité. C'est un combat à la fois des hommes, des femmes et des hommes, et pas seulement les hommes en tant qu'alliés, d'une manière intime et professionnelle. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat qui concerne tout le monde. Parce que de toute manière, en tant qu'homme, on ne peut pas être libre. Et il ne peut pas y avoir d'égalité et de liberté pour les hommes s'il n'y a pas une liberté et une égalité pour les femmes. Voilà.
Tout à fait. Marie-Christine, tu voulais...
Ouais, c'était juste une précision, parce que là, on parlait de l'égalité des salaires là, au moment, aujourd'hui, à l'instant T. Mais il se surajoute à ça un effet carrière. C'est-à-dire que ces différences de rémunération aujourd'hui se surajoutent aussi des opportunités qu'on ne peut pas saisir au moment où elles se présentent, et tout ça se cumule. Et au final, quand il s'agit de prendre sa retraite, eh bien les femmes se retrouvent doublement, triplement pénalisées.
Donc avec des retraites bien moindres.
Bien moindres, de toute façon. Mais parce qu'il y a aussi un effet carrière, ça se joue sur toute une vie professionnelle.
Et accentué par les différentes réformes sur les retraites qui ont eu lieu depuis quelques années.
Géraldine, tu voulais intervenir ?
Oui, je voulais intervenir pour essayer de rendre ça en proposition. Et c'est vrai que le travail qu'on a à faire, il est à la fois sur la mixité à l'intérieur des filières, parce qu'on se rend compte, et vous l'avez dit, que c'est dans les filières du sanitaire, de la culture, qu'on va retrouver une majorité de femmes, là où les salaires sont plus bas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que les salaires sont plus bas. Donc, il y a vraiment ce travail à enclencher sur le fait qu'on doit pouvoir retrouver dans les filières techniques un nombre de femmes plus important. Et là-dessus, le travail reste entier, et donner aussi la possibilité aux femmes de pouvoir accéder à des postes, tous les postes possibles, et leur donner les capacités, donc ça, dans le milieu du travail et dans le milieu personnel. Je voudrais quand même parler et faire peut-être un focus sur un phénomène de société qui apparaît depuis quelques années, qui est la famille monoparentale, pour laquelle on va retrouver essentiellement des femmes avec leurs enfants, et c'est un effet boule de neige en termes de difficultés d'accès à l'emploi et d'accès aux responsabilités. Donc là, par exemple, au niveau régional, pour essayer de travailler ce sujet, puisque les chiffres au niveau de la région Grand Est sont sensiblement les mêmes que ceux de la France, et pourtant il y a des crédits qui sont déployés, donc ça veut dire qu'ils sont peut-être mal utilisés. On avait demandé la mise en place d'un observatoire sur l'égalité homme-femme. Malgré des mois de travail enclenchés aujourd'hui, nous n'avons aucune décision pour cet observatoire, avec des actions ciblées, j'entends un observatoire, pour pouvoir cibler des actions précises, mettre en place un plan d'action et pouvoir mesurer les avancées par rapport à ce plan d'action. Ça, c'est la première chose.
Sur la précarisation des femmes et des familles monoparentales
sur le fait de pouvoir donner les moyens à ces femmes, y compris quand elles sont en situation de monoparentalité, de pouvoir avoir un accès à un emploi correctement rémunéré, à l'emploi de leur choix, et aussi à avoir la capacité de pouvoir prendre les responsabilités. Et après, si, alors je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou si on vient plus tard, mais je voudrais aussi parler des femmes dans les sphères de pouvoir. On a parlé des responsabilités, des femmes en poste à responsabilité. Il y a aussi aujourd'hui tout un tas d'organes de pouvoir. J'entends par exemple les femmes en politique, dans les cercles de gouvernance. J'entends, par exemple, les femmes dans les conseils d'administration, où là, les différences entre la représentation masculine et féminine sont encore plus criantes. On a une loi, par exemple, du 2 mars 2022, qui impose la parité dans les gouvernances sportives d'ici 2028. Donc, il va falloir encore attendre, mais là, il y a une loi qui est passée. Quid des autres secteurs d'activité ? Au niveau régional, par exemple, on demande à ce que les aides soient conditionnées et on demande à ce qu'une bonification, faute de texte législatif, qu'une bonification soit apportée aux acteurs économiques, aux acteurs de la culture qui auraient un conseil d'administration paritaire. Ça, c'est très important. Et dernier petit point sur les femmes au pouvoir, je voudrais signaler, parce que ça se passe actuellement, c'est une tribune qui a été lancée le 5 mars et qui a été diffusée dans Le Monde, qui a été lancée par une adjointe à la mairie de Lyon et qui a été portée par les écologistes, qui s'appelle Élus et Maires, M-E accent grave R-E-S. Elles sont partout, sauf dans la loi. 28% de maires, pour faire très court, 28% de maires aujourd'hui en France, de maires M-A-I-R-E, et rien qui est prévu concernant le congé maternité. Donc quand elles sont enceintes, c'est vraiment un souci, puisqu'il leur faut se déporter complètement pour exercer leur mission de maire. Je parle des mères là en particulier, on pourrait parler aussi des femmes qui sont indépendantes, chefs d'entreprise, entrepreneurs, parce qu'elles sont aussi dans le même cas de figure.
Donc pour aller vers l'égalité, beaucoup de combats à mener dans la sphère publique, dans la sphère privée, dans le travail au quotidien. Il faut que les, bon, il faut pour pouvoir s'engager. En s'engageant, on obtient des droits. Donc on peut aussi inviter les auditeurs et auditrices à syndiquer, à rejoindre des organisations si elles le peuvent, parce que c'est vrai qu'elles ont aussi beaucoup d'entraves. Sylvie, toi, tu voulais...
Historiquement, ce sont bien les combats des femmes, mais effectivement, il faut que les hommes y participent très largement, mais il faut que les femmes s'emparent vraiment de ce combat. Et c'est vrai qu'en politique, on manque peut-être justement parfois de militantes aussi pour faire entendre cette voix. Et j'invite toutes nos auditrices à aller chercher du côté de milieu associatif, syndicales et politiques, tous les lieux où elles pourraient s'engager et s'investir. Il est vrai, on a parlé des situations salariales. Je crois que presque deux tiers des salariés au SMIC sont des femmes. Hein. Il y a le temps partiel, mais il y a aussi ce problème-là. Donc une augmentation générale des salaires ne peut être que bénéfique pour tous et pour toutes, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure, Yann, du problème des entreprises qui ne respectent pas la loi. On a quand même un ministre, Bruno Le Maire, qui a tendance à dire qu'il demande fermement aux entreprises, et il le répète, vraiment, que ça lui tient à cœur de voir les choses évoluer. Mais évidemment, s'il n'y a pas de contraintes, il ne se passera rien. Or, un contrôle est possible. Un contrôle par les salariés, à travers leur syndicat, et puis aussi avec l'aide de l'inspection du travail. Encore faut-il que l'inspection du travail ne soit pas détricotée. Donc là, ce sont seulement des organisations politiques qui peuvent porter ce combat-là et instaurer les structures qui vont permettre ce contrôle et obliger, non pas inciter les entreprises, mais véritablement obliger les entreprises à respecter la loi, aller vers l'égalité salariale. Et c'est ce qui est porté notamment par la France Insoumise. Et puis des sanctions peuvent être prévues, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Et pour cela aussi, il faut bien des personnes qui contrôlent et qui soient indépendantes, bien sûr, pour le faire. Et puis je pensais aussi à autre chose, on parlait de la situation des femmes et des mères. Alors je ne sais pas quelle image de la mère a le président Macron quand il parle de réarmement démographique. Alors là, on va peut-être sortir un peu de cette image, les femmes ne sont pas des usines à petits français qui vont obéir au claquement de doigts de notre président. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Il devrait plutôt se demander pourquoi on fait peut-être moins d'enfants. Pourquoi on a peut-être moins envie, pourquoi on a peur pour l'avenir, ou pourquoi c'est plus compliqué. Et on a déjà donné là plusieurs réponses au problème. C'est-à-dire que quand on a un travail avec des horaires décalés, sous-payés, qu'on n'a pas à proximité une structure de crèche publique, efficace, avec, ouverte avec aux horaires places, qui conviennent, ouais, avec des places, ben on arrive à rien. Et quand on est une femme isolée, évidemment, c'est encore pire. Donc, il y a des femmes qui ont vraiment des journées atroces, en se levant très tôt le matin pour aller faire un premier travail, puis qui après s'occupent de leurs enfants et retournent en fin de journée pour avoir un autre travail ou reprendre des heures de ménage, de caisse, etc. Donc, évidemment, c'est intenable. Et en plus, la société, parfois, leur renvoie l'image désastreuse d'une mère qui ne serait pas capable d'assumer l'éducation de son enfant, alors qu'en fait, rien n'est fait pour l'aider. Donc, il faut aussi un État qui soit prêt à mettre de l'argent dans les services publics, donc notamment pour l'accueil de l'enfance et dès la toute petite enfance, pour que vraiment les familles en général et les mères isolées en particulier puissent être accompagnées.
Laura voulait aussi intervenir. Vas-y, Laura.
Oui. Je voulais intervenir sur... Alors moi, je suis représentante syndicale CGT, oui, mais je suis aussi auxiliaire de puériculture, donc je travaille en crèche, et je suis aussi dans une famille monoparentale, parce que j'élève mon fils toute seule. Oui, c'est dur tous les jours parce que il y a pas beaucoup d'aide qui nous sont octroyées, parce que je suis loin d'être la seule malheureusement en France à vivre ça, et oui, je subis mon temps partiel parce que avec mon fils toute seule, je n'ai pas le choix, et oui, je subis mon petit salaire, et là on est en période de vacances scolaires, oui, mettre mon fils au centre aéré, non, c'est un coût, et avec mon petit salaire, c'est compliqué. Et malheureusement, je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là. Et je pense que c'est important aussi d'en parler, parce que oui, les inégalités, elles se créent comme ça, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont dans ce cas-là, hein, mais essentiellement, c'est des femmes. Et moi, je pense que il faut aussi que dans notre lutte, les hommes aussi nous rejoignent. Je pense que c'est important, parce que tant que les hommes ne seront pas sensibilisés ou formés à notre lutte sur le droit des femmes ou sur plein d'autres choses, ça n'avancera pas. Il faut que les femmes se lèvent et se réveillent et qu'on se mobilise. Hein. Je vais pas revenir dessus, mais il faut que les hommes aussi prennent conscience que on a aussi besoin qu'ils se rendent compte que le quotidien est dur pour nous. Les femmes.
Et malgré des annonces du président Macron qui nomme la cause des femmes comme première cause à défendre, en même temps ils font beaucoup de violence vis-à-vis des femmes. Et puis à longueur de plateau télé, c'est bien que les gens qui ont le RSA, ils fassent des heures aussi, ils travaillent gratuitement. Oui, mais comment fait une femme seule avec ses enfants, comment font imposer de l'activité obligatoire non rémunérée, c'est aussi une nouvelle violence faite aux femmes, puisqu'on a vu que les familles monoparentales et donc celles qui touchent le RSA aussi ce sont des femmes à 84%, ce sont des femmes qui sont à la tête d'une famille monoparentale. Géraldine, tu voulais intervenir sur...
Oui, ça me permet un peu d'ouvrir aussi le débat, peut-être on n'aura pas le temps de tout aborder, mais d'ouvrir un petit peu le débat sur une autre thématique. Moi, je suis d'accord, Monsieur Macron, priorité nationale pendant son mandat sur l'inégalité homme-femme, il y a les paroles, il y a les actes. Dans les actes, on ne voit pas grand-chose venir. Mais j'ouvre un petit peu le débat sur le fait qu'aujourd'hui, on parle de la femme dans le monde du travail et aussi la femme dans son foyer. Et quelque part... Cette femme, elle ne touche, elle n'est rémunérée que par son travail. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle fait à la maison si c'est pas du travail ? Qu'elle soit en couple ou pas d'ailleurs. Mais à un moment donné, quand on s'occupe de ses enfants, c'est aussi un travail. Alors certains l'entendent pas comme un travail, je vais peut-être utiliser alors le terme d'utilité sociale. Mais parce que c'est important, quand on donne une éducation à son enfant, ça a une utilité sociale, ça a une utilité pour la société. Est-ce que ça, quelque part, ce temps qui est passé à la maison, auprès de ses proches, auprès de ses enfants, ça ne devrait pas être indemnisé ? Est-ce que, par hasard, le temps que l'on passe auprès de ses aînés, quand ils sont dans la difficulté, de ses proches, quand ils sont handicapés, ce n'est pas une utilité social qui devrait à un moment donné être indemnisé. Sinon, on peut payer aussi des EHPAD et puis des crèches privées et puis d'autres structures. Donc je pense que ça, à un moment donné, il faut aussi poser ce débat-là parce que pendant longtemps, la femme au foyer qui faisait ce travail, ça a été considéré comme son rôle normal et pas comme un travail. Or, c'est un travail.
Et non rémunéré. Je pense à, pour tu disais le suivi de l'éducation des enfants, une association de parents d'élèves comme la FCPE demande que, ça soit, que l'accompagnement de son enfant soit compté, sont comptabilisés, les réunions que les parents, et qui, quand je dis les parents, à 90%, ce sont des femmes qui vont aux réunions avec le collège, avec l'école, avec le lycée, intervenir dans les conseils d'administration des collèges, des lycées, et ben oui, effectivement, on arrive à la contradiction, où ce sont les femmes qui s'occupent le plus de leur, des enfants et du suivi des enfants, ce qui est regrettable socialement, mais aussi parce que les conditions ne sont pas réunies et ne permettent pas aux femmes d'y être à égalité avec les hommes. Anne.
Alors, je voulais rebondir, vous avez évoqué le fait que l'égalité femmes-hommes avait été décrétée comme grande cause du quinquennat. On a dit, mais où sont les actes? Alors les actes, ils sont là, mais reculons plutôt, puisque dans les dernières coupes budgétaires annoncées, il y a moins 7 millions sur cette ligne-là. Et tout ce qu'on
700,
est en train de
700
dire...
Millions de, 700 de moins, 700 millions.
Tout ce qu'on est en train de dire sur les choses qu'il faudrait faire, tout ça, ça demande des moyens, en fait. Et il ne suffit pas de décréter des choses si jamais on ne donne pas les moyens derrière. Il y a une victoire dont on peut se féliciter toutes et tous autour de la table récente. C'était quelque chose qui était porté par les collectifs, par les syndicats. C'est la constitutionnalisation du droit à l'IVG. C'est bien, c'est inscrit dans la loi, mais si on ne donne pas des moyens derrière pour réouvrir tous les centres d'IVG qui ont été fermés depuis 10 ans, si jamais on donne pas les moyens aux femmes de le mettre en application, ça sert à rien de l'inscrire dans la loi non plus. Donc c'est bien qu'on ait gagné cette inscription dans la loi, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On pourrait parler aussi du congé menstruel qui était en discussion et dont les parlementaires ne veulent pas entendre parler pour l'instant et qui pourtant est aussi quelque chose de très important pour les femmes.
Marie-Christine, tu voulais intervenir?
Oui, parce que j'ai sursauté à la proposition d'indemniser le travail domestique et pour moi, dès qu'il y a un travail, c'est pas en termes d'indemnité ou d'allocation qu'il faut réfléchir, mais plutôt en termes effectivement de salaire. Et donc du coup, la question de l'argent, elle est une question qui est très souvent occultée quand il s'agit des droits des femmes. Dans le rapport capital-travail, la situation des femmes, elle est doublement en situation d'oppression. Et j'en veux pour exemple, quand on parle de l'égalité des tâches entre les hommes et les femmes, on parle souvent de l'aspirateur et on parle assez peu souvent du compte en banque et de qui paye les traites pour la maison, qui a des effets pour la suite quand il s'agit, lorsqu'on se sépare, de répartir du patrimoine et que les femmes sont donc très très souvent perdantes dans cette affaire de patrimoine. Et de nombreux sociologues ont étudié cette question et l'ont mis très clairement en évidence. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Ma mère s'est rendue compte au moment où elle a eu le droit d'avoir un compte en banque, qui est quand même assez récent, et bien que mon père, donc son mari, en avait profité pour vendre le bout de verger que lui avait donné en propre son père. Vous voyez ? Ouais, oui, oui. Donc c'est des petits signes, des petits moments comme ça, des journalistes ont mis en évidence que lorsqu'il y avait séparation, souvent la femme se retrouvait avec les pots de yaourt qu'elle avait payés et la maison ou la voiture, c'était pas elle, quoi. Hein, et donc il y avait un double effet de paupérisation dans ces relations. Et quand on est dans des responsabilités politiques, il faut aussi pouvoir repérer les problèmes qui se posent, mais aussi anticiper et se mettre en perspective de nouveaux combats. Et la question de l'argent en est un majeur. Moi, je partage aussi le fait que quand on dit on gagne de nouveaux droits, le droit à l'IVG, si effectivement les centres IVG ferment, ça nous pose grandement souci. Je voulais aussi dire que la responsabilité d'organisation politique, c'était aussi de rendre concrets les droits, c'est-à-dire des droits-libertés, ce que j'appelle la liberté de recourir à l'IVG, doit s'accompagner d'un droit effectif, d'un droit social effectif. Et donc, c'est ces combats-là que l'on doit mener. Et je voudrais juste donner aussi un exemple, parce que sur la région Lorraine, on a cité l'Observatoire, qui était... bien difficile à mettre en œuvre, ou la reconnaissance de la mixité dans les filières professionnelles. Ici, sur la ville de Nancy, les communistes ont investi dans la création de la Maison des Femmes, et qui est un long, long, long combat, mais qui est quand même pas loin d'aboutir, et dont on peut être aussi fier pour permettre, effectivement, de mutualiser des moyens et rendre les droits des femmes particulièrement effectifs, notamment en cas de violence. Notamment en cas de violence, pour qu'elle puisse être mise à l'abri rapidement.
Oui, l'ironie un peu, c'est aussi que le thème du 8 mars 2024, c'est justement investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc l'ONU a donné ce thème, et c'est vrai qu'en France, les différentes organisations politiques progressistes disent qu'il faut des moyens, il faut des moyens. C'est un investissement, c'est rien qu'une raison égalitaire de donner les moyens pour aller vers l'égalité. Il faut des moyens parce que sinon on reproduit un modèle patriarcal, et effectivement où l'homme a le pouvoir, que ça soit familial ou dans le travail, et donc il faut ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement. Les collectifs féministes demandent de l'argent pour les violences faites aux femmes, comme tu viens de dire, Marie-Christine. Je crois qu'elle demande quelque chose comme 2 milliards 6 ou 3 milliards.
Je crois que c'est passé à 3 milliards dernièrement dans les derniers chiffrages où j'ai vu ça. Alors qu'on disait 1 milliard encore il y a quelques années, mais les besoins vont en s'amplifiant. Tu parlais à l'instant de la maison des femmes. Ce qui apparaît aussi, l'expérience a été tentée, je crois, dans le Nord, c'est surtout de faire entendre à l'agresseur que c'est lui qui part, et de protéger les femmes chez elles, et d'avoir des centres où sont accueillis les hommes qui se montrent violents, parce que finalement aussi c'est un peu la double peine pour la femme, c'est elle. Alors il faut des lieux d'accueil, mais il faut aussi faire entendre que ce n'est pas elle le problème, mais bien celui qui frappe. Et dans les propositions qui ont pu être portées chez les Insoumis, il y avait aussi cette idée-là. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais à propos de l'IVG, ce que tu disais aussi, c'est vrai que il avait été question d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, hein, c'est notamment porté par des députés, Mathilde Panot pour les Insoumis, et on est passé à la liberté, ce qui est une avancée énorme, mais qui dit liberté ne dit pas droit. Et effectivement, il faut des centres IVG dans chaque hôpital, alors qu'on ferme des maternités. On voit sur Nancy comment le projet Grand Nancy Brabois va absorber et a déjà absorbé Toul, Lunéville, Remiremont aussi rencontre des difficultés, les urgences sont fermées, la maternité est en danger. Donc il faut effectivement que les services publics se défendent, et notamment toutes ces structures qui sont fondamentales pour la vie des femmes.
Géraldine, tu voulais compléter sur cette question?
Oui, je vais juste...
rapidement.
Rapidement, je vais essayer de faire rapide, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que la constitutionnalisation de l'IVG est un grand pas. Chez nous, c'est Mélanie Vogel qui, depuis son arrivée au Sénat, l'a portée. Et juste pour dire que ça a fait 92% des parlementaires. Ça veut dire qu'il y en a 8% qui ont voté contre, et il y en a un certain nombre en Moselle.
Et en Meurthe-et-Moselle, il y a Thibaut Bazin, député de Lunéville, a voté contre.
Et en Moselle, pourquoi je dis la Moselle ? Parce qu'on a Catherine Belretti, qui a quand même été vice-présidente il y a peu au lycée et à la jeunesse, à la région Grand Est. Donc c'est l'image aussi qui est colportée dans les politiques publiques par cette femme en position de l'exécutif. Et une dernière chose aussi dont je voudrais parler, parce qu'on parle d'argent, on pourrait parler aussi à un moment donné de législation. Il y a quelque chose que l'Europe nous demande à corps et à cri depuis de nombreuses années, et la France les mots et les actes dits non, c'est la définition pénale du consentement.
Oui,
puisqu'on parlait de comportement sexiste, à un moment donné, on doit définir pénalement ce que c'est le consentement, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. On doit faire référence dans le droit à ce qui concerne la violence, la contrainte, la menace, la surprise, et non pas laisser ces éléments-là à l'estimation d'un juge. Aujourd'hui encore, la victime est traitée comme une coupable qui doit démontrer qu'elle n'était pas consentante, et c'est l'agresseur qui, lui, est une victime. On a eu un cas comme ça à la région Grand Est où un élu a été accusé par plusieurs de ses collègues du même groupe d'agression sexuelle. Le jugement n'a pas été rendu. Ils sont présumés victimes et présumés coupables. En attendant, ces femmes travaillent encore avec ces hommes avec un lien de subordination. Et ça, c'est un problème et on doit pouvoir avancer là-dessus. Et ça, c'est du droit. Et c'est la preuve que même sans crédit, on pourrait faire avancer les choses. Quand on veut, on le peut. Et là, ce n'est pas fait.
Oui, et je pense qu'on reprendra ces questions de violence faites aux femmes au mois de novembre, hein, dans une prochaine émission sur cette thématique-là précise. Yann, tu vas avoir le dernier mot. Après,
oui, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais
donner à un homme, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est juste pour rappeler.
C'est juste pas possible.
C'est juste pas possible, mais c'est juste pour rappeler. Donc, manifestation à 15h vendredi. Départ 15h40, que c'est une journée de grève, que les hommes et les femmes, ou plutôt les femmes et les hommes, sont appelés à faire grève et à venir à la manif. Et juste un dernier mot, c'est pas l'ONU hein, qui a créé la journée internationale, c'est sur une proposition du mouvement ouvrier et d'une camarade bolchevique, Clara Zetkin, en 1919 ou 10,
1910.
Oui, 1911. La première, c'est 1911, mais c'était au Congrès international féministe, socialiste en 1910 que ça a été proposé.
Oui. Voilà. Non, bien sûr, c'est pas venu comme ça à l'ONU.
Non, c'est le mouvement ouvrier qui a défendu l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas quelqu'un d'autre.
Donc, je vous remercie. On va clore cette émission qui est, comme d'habitude, frustrante parce qu'on n'arrive pas à dire tout ce qu'on a envie de dire. Donc, je vous invite les uns, les unes et les autres à aller voir les sites, à vous joindre aux différentes organisations qui défendent les droits des femmes, organisations politiques, syndicales, associatives. Venez à la manifestation, c'est le 8 mars, 15h, place Charles III à Nancy. Eh bien, au revoir à vous toutes et on se retrouve sur RCN 90.7. Au revoir.
Au revoir.
Les uns les autres.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Au revoir.